Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle d'environnement, d'humanité, de numérique. La numérisation du monde est en marche. Il n'existe plus d'activité qui ne soit pas numérisée. Votre déclaration d'impôt, vos examens de fin d'année, vos démarches à Pôle emploi, votre dossier médical, vos réunions avec votre chef. Ce qu'on appelle la dématérialisation, beaucoup la vendent comme écologique. Elle ne pèserait pas ou si peu sur les ressources limitées de la Terre. Ce serait une solution. C'est un immense mensonge, nous disent Laurent Testot et Nathanaël Wallenhorst, auteurs de Vortex, faire face à l'Anthropocène aux éditions Payot. Dans Minute Papillon, on est allé rencontrer ces auteurs pour comprendre pourquoi le numérique ne nous sauvera pas d'un effondrement bioclimatique du monde. Bonjour Laurent Testot, Nathanaël Wallenhorst. Comment tout d'abord vous présenter ?
Laurent Testot, journaliste. Je travaille les questions d'environnement, d'histoire et de futur. Je suis connu pour le livre Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité.
Et moi, je suis Nathanaël Wallenhorst. Je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Ouest et je travaille sur les questions environnementales, politiques et éducatives.
Data center qui chauffe ma maison, comme en Scandinavie, une chaleur qui serait régulée par une intelligence artificielle, ma voiture qui roule à l'électrique, mon ticket de caisse dématérialisé. Ce serait pas un progrès, tout ça, pour limiter mon empreinte environnementale.
C'est génial, là, tout ce que vous nous amenez, là, comme solution, comme chose, etc. Bon, j'ai envie de dire, c'est super si une intelligence artificielle chauffe ma maison, machin. Bon, enfin, elle reste chauffée, en fait. Et puis, c'est pareil pour la question du ticket. Si à un moment donné, d'avoir un ticket sur 3 cm carrés, bon, bah, du coup, il y avait une petite empreinte environnementale, mais de pouvoir accéder n'importe quelle heure du jour et de la nuit à ma commande pour savoir si j'ai acheté un pot de Nutella ou je sais pas quoi, et ce pendant 10 ans, et ça va générer une empreinte environnementale considérable. Et en plus, ça va permettre aux boîtes justement de savoir ce que j'ai acheté pour m'envoyer ensuite un ensemble de trucs à consommer, etc. Donc bien évidemment, c'est un immense enfumage hein, quand on vous dit oh, ben, pour des questions environnementales, nous n'allons pas imprimer votre ticket, mais nous allons l'envoyer sur votre adresse mail que vous pourrez consulter à tout moment du jour ou de la nuit. Et bien sûr, nous vous enverrons toutes les promos, etc. L'ensemble de la numérisation du monde a non seulement une empreinte environnementale considérable, mais elle l'augmente de façon exponentielle. Donc il n'y a rien de bon à prendre de mon point de vue de ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'on est dans le registre des solutions techniques, technologiques, etc., ça nous éloigne de la politique. Et fondamentalement, le problème qu'on a sur les bras, c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'il s'agit ensemble de refonder l'expérience démocratique pour qu'on bute en permanence sur des limites, les limites étant celles que nos démocraties auront positionnées, entérinées, fondées, et qu'on arrête de penser l'expérience démocratique à partir de la liberté. La démocratie, c'est quoi ? C'est je fais ce que je veux, quand je veux, etc. Et en disant ça, je dis pas, mais en fait, c'est une autocratie qui va nous tirer l'affaire. Pas du tout, c'est pas du tout une dictature. Positionner des limites, évidemment, nos députés, on n'a pas l'habitude de les voir bosser. Mais il s'agit à un moment donné qu'ils se mettent à bosser sérieusement en prenant acte du réel médié par les savoirs scientifiques, donc du réel dans sa matérialité biogéophysique, pour à partir de là encastrer dans nos démocraties une activité politique qui s'encastre bien dans le réel et qui préserve de l'emballement bioclimatique, quoi. Et donc, dès qu'on est sur un registre technique, etc., on se dit, oh, bah, tiens, on va inventer des voitures vertes, des voitures en feuilles de chou, des voitures en bois, des voitures en je sais pas quoi. Ben non, en fait, elles continuent d'avoir une empreinte environnementale, quand bien même le mode de consommation énergétique serait un peu moins carboné.
Ça implique aussi que le politique s'empare de ces questions-là. Si Google peut faire des centres, des data centers qui copient 5-6 fois les données sur les gens afin de les agglomérer pour nourrir des intelligences artificielles qui permettront de mieux contrôler la population et de vendre des services d'administration des populations aux États, on s'en pointait quand même 1984, version libérale, ultra-libérale même. C'est aux États de réguler, de dire à Google « tu peux faire la même activité ». Avec d'autres limites, et notamment en consommant beaucoup moins d'énergie. On sait qu'on pourrait faire fonctionner le web tout aussi efficacement pour nous rendre les services qu'il nous rend aujourd'hui, avec beaucoup moins de dépenses d'énergie, de terres rares dont on va avoir besoin dans le futur pour l'électronique, pour des services de base qui sont vitaux pour les populations. Et aujourd'hui, on est dans un dogme où, par une sorte de magie, les intérêts privés des entreprises permettraient d'atteindre un optimum de bonheur pour les sociétés. C'est absolument pas vrai. Il y a des limites. La démocratie, c'est des limites, c'est-à-dire fais ce que tu veux tant que ça ne nuit pas à ton voisin. Aujourd'hui, la nuisance, ce sont les limites planétaires. Si on les franchit, nous ne serons pas en mesure de conserver nos civilisations. Nous serons probablement dans un système extrêmement violent de compétition entre sociétés. Et donc, avant de franchir ces limites, et c'est une question démocratique, il faut poser des points au-delà desquels on n'a pas le droit d'aller, et il faut réguler l'activité des firmes. C'est effectivement un des éléments fondamentaux de la politique de l'Anthropocène.
Et le cloud, ce petit nuage numérique, est-ce que ce ne serait pas une solution ? Autant de données qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas imprimées, qui ne sont pas stockées dans une administration, dans une entreprise, chez moi, dans mon bureau.
Le cloud, c'est extrêmement bien vu, cette appellation de légèreté. On s'imagine un peu comme un oiseau dans les nuages, etc. Et puis, de fait, c'est de la matière, c'est des câbles, c'est des métaux, etc. Et puis, c'est de l'énergie, une énergie considérable, avec notamment cette promesse d'accessibilité en permanence à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, depuis n'importe quel poste, etc. De fait, il y a un poids qui est considérable. Moi, ce que je voudrais juste signifier, c'est en fait, quel est le problème que nous avons sur les bras ? Le problème que nous avons, c'est que nous ne cessons d'aller toujours plus vite et plus loin dans une consommation, une surconsommation de toutes les ressources que nous prodigue la Terre, et nous ne cessons d'aller toujours plus loin dans le franchissement de ces limites qui courent le risque que nous franchissions un seuil. Un seuil, c'est un point de rupture brusque et irréversible dans le fonctionnement du système Terre, qui fait qu'ensuite, plus aucun retour en arrière n'est possible. Et il y a notamment un article de Stephen et ses collègues en 2018, et puis qui a été beaucoup repris, puis qui a vraiment marqué les esprits, puisqu'ils ont réussi à dire finalement une très bonne synthèse du problème. Ils disent, mais en fait, il existe un seuil qui est situé entre environ plus 1,5 et plus 2 degrés, qui, si on le franchit, court le risque que le système Terre ne se stabilise ensuite qu'aux alentours des plus 5 degrés. C'est-à-dire en fait une terre qui ne soit pas habitable pour la vie humaine en société. Voilà le problème que nous avons face à nous. Pour le dire en quelques chiffres, par exemple les accords de Paris, pour le cadre de la France, de diminuer par 5 notre empreinte et en équivalent carbone dans 27 ans, en 2050. Par 5, point 1. Point 2, on sait que le niveau de ressources, il est proportionnel à l'empreinte environnementale d'un individu. Point 3, on sait que le salaire médian en France, c'est 1 800 euros net. Ça dépend toujours à peu près comment on compte. Donc, point 4, on va faire le calcul ensemble. 1 800 divisé par 5, ça nous fait à peu près 400 euros. Voilà en gros le budget à peu près. Alors évidemment, s'il y a un économiste là dans l'Assemblée, il va dire « Ah, scandale, il a oublié de calculer tel machin, etc. » Les économistes savent très bien compter, bien mieux que moi. Toujours est-il que ça donne un ordre de grandeur. En gros, il faut qu'on arrive à vivre avec une empreinte environnementale de quelqu'un qui, en France, aurait quelque chose comme 400 euros. Voilà. Donc en fait, toute promesse qui va nous dire « Ah, mais en fait, on va faire ci, on va faire ça, etc. » qui ne soit pas une mise au régime, mais drastique, 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 ben, en fait, c'est un immense mensonge.
L'humanité a réussi à s'entendre pour sauver la couche d'ozone en interdisant des gaz CFC utilisés dans des dispositifs de réfrigération. Il faudra maintenant entre 40 et 50 ans pour que la couche d'ozone se reforme. Un, c'est pas une super nouvelle ça. Et de deux, si l'humanité y est arrivée pour la couche d'ozone, elle va bien y arriver pour le climat, non ?
On a résolu, entre guillemets, le problème de la couche d'ozone par un traité international en 1987, mais c'est un problème infiniment plus simple et probablement non systémique. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait quatre pays qui produisaient des gaz qui détruisaient la couche d'ozone, qui protège la Terre des rayonnements nocifs du soleil. Et l'idée a été qu'on signe un protocole pour obliger les entreprises à remplacer par d'autres gaz. Et ça a marché parce qu'il y avait relativement peu de parties prenantes et que les entreprises ont intérêt à changer leur système industriel, ce qui leur a rapporté plus d'argent en changeant ces gaz. On a acheté des nouveaux frigos, des nouveaux systèmes de réfrigération. C'est génial, sauf que on a déplacé le problème et on a aggravé le problème du réchauffement climatique avec ce transfert-là, chose que tout le monde oublie de signaler en général quand on parle de cette question. Les gaz qui sont utilisés aujourd'hui en remplacement sont extrêmement dangereux. Ce sont des gaz à effet de serre avec des capacités à réchauffer l'atmosphère bien supérieures à celles du CO2. Et le gros problème, c'est que ces gaz, il faut les recycler. Et le gros problème, c'est que les pays qui ont besoin de climatisation aujourd'hui en urgence, parce qu'ils sont frappés par le réchauffement climatique de plein fouet, c'est le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. Et que ces pays n'ont pas les structures aujourd'hui nécessaires au recyclage de ces gaz et que ça va accélérer le réchauffement climatique. Et donc, on a décalé le problème faute d'avoir réfléchi de manière systémique à sa solution. Aujourd'hui, pour remédier, on est obligé de transférer des technologies d'urgence de recyclage de ces gaz dans ces pays-là, chose qu'on ne met que très lentement en place, malheureusement. C'est un danger énorme. C'est aussi l'idée que on ne résoudra pas ces problèmes si on ne s'y attaque pas tous simultanément. Si on résout un problème après l'autre, eh ben, les conséquences de la première résolution vont aggraver les suivants et on courra derrière la solution jusqu'à l'effondrement. Donc vraiment, nous, ce que nous appelons, c'est une pensée systémique à travers le concept d'anthropocène qui permet justement de saisir cette dynamique d'ensemble.
Dans votre question aussi, vous ameniez la question du politique dans son articulation en fait avec les autres nations, etc. Évidemment, c'est nécessaire. Toujours est-il que aujourd'hui, en France, nous avons besoin que les politiques publiques prennent acte des savoirs bioclimatiques. Et aujourd'hui, les savoirs, ils ne sont pas mis au cœur de l'espace social. Ils ne sont pas mis au cœur des discours politiques. Ils ne sont pas au cœur des programmes scolaires. Il y a des savoirs bioclimatiques qui pénètrent petit à petit les programmes scolaires, mais la dynamique qui donne tout leur sens au savoir scientifique, c'est celle de la rupture. Demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Et bien, cette dynamique-là, ce paradigme, cette logique, elle n'est pas au cœur des programmes scolaires aujourd'hui. Elle n'est pas au cœur des récits politiques, etc. Et ça, en fait, ça pourrait. Il suffit juste d'un zeste de courage pour regarder le réel tel qu'il est, médié par les savoirs scientifiques. Et pour faire ça, on n'a pas besoin d'être d'accord avec tous les pays du monde. Il suffit simplement de regarder le réel. On va dire « Ah, ça va être un vent de panique, ça va être... » Ben oui, mais à un moment donné, c'est le réel, tout simplement. Moi, si j'étais atteint d'un cancer, je préfère le savoir que de ne pas le savoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux, à vous abonner et à évaluer ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme L'été dans vos oreilles.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.